Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur laclédesondes.fr.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire du guide du Bordeaux colonial sur la clé des ondes 90.10. Nous sommes aujourd'hui le 6 mars 2024 et dans deux jours, le 8 mars, aura donc lieu la journée internationale des droits des femmes. La première édition de cette journée de lutte pour le droit des femmes a eu lieu le 8 mars 1917 en pleine révolution bolchevique, journée où des manifestations d'ouvrières sont considérées comme le premier jour de la révolution russe. La révolutionnaire Alexandra Kollontai évoque une journée internationale des ouvrières. Cette journée du 8 mars 1917, c'est un événement qui consacre le 8 mars comme journée internationale du droit des femmes. Ainsi, ce n'est pas une journée de la femme, on va nous offrir des fleurs, des cadeaux ou surtout pas des ustensiles de cuisine. Le 8 mars, c'est une journée dans le monde entier depuis plus d'un siècle où les femmes battent le pavé sur les quatre coins du globe pour exiger et combattre pour leurs droits. Et pour mettre en lumière la force des figures féminines bien souvent oubliées de l'histoire et des récits collectifs, j'ai décidé de donner la parole à des femmes fortes, exemplaires dans leur parcours, mais aussi qui illustrent bien la force et la diversité des personnes qui représentent la migration sur le territoire de France. Ces femmes qui sont arrivées tout en France sont, à travers leur micro-histoire, sont ce qui nous permet de nous relier au grand récit, qui, à travers leur exceptionnelle fureur de vivre, mais aussi leur amour, leurs liens amicaux qui sont tissés, ces femmes peuvent devenir des figures et montrer la diversité qui existe en France. L'année dernière, pour le 8 mars 2023, nous avions diffusé le témoignage de Bayan Mohammadi, chanteuse kurde iranienne et qui présentait la lutte des femmes en Iran, mais aussi son vécu à elle en tant que femme kurde dans la République islamique, mais aussi son vécu en tant que femme réfugiée en France. Cette émission de Bayan Mohammadi est bien sûr à retrouver sur nos sites de podcast sur laclédesondes.fr. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'avoir ici, dans notre studio de La Clé des Ondes, Sonam Karik Tsang. Bonjour Sonam.
Bonjour.
Pour cette émission du jour, nous allons aller au cœur de l'Asie, sur les hauteurs de l'Himalaya, sur le plus haut plateau du monde, qu'est le Tibet. Car, Sonam, tu es née, tu as grandi et tu as dû partir du Tibet pour désormais vivre en France depuis 2011. Ici, en France, du Tibet, nous connaissons ces hauts plateaux de l'Himalaya, nous connaissons surtout la grande figure du Dalai Lama qui est votre chef religieux, hein, qui représente le descendant de Bouddha. Le Dalai Lama dont on voyait surtout dans les grands plateaux des émissions occidentales qui dénonçait la conquête et les problématiques suite à l'invasion de votre territoire par votre voisin qui est la République communiste de Chine. Le plateau tibétain, qui est appelé le toit du monde, est une région finalement méconnue où on connaît très peu le quotidien, la vie des Tibétains. Et c'est pour cela que j'ai voulu t'inviter pour que tu puisses nous raconter ta vie à toi en tant que femme tibétaine. Et donc, chers auditeurs, je suis très heureuse aujourd'hui de vous donner pour une heure le témoignage de Sonam, femme tibétaine qui est arrivée en France en avril 2011, qui a dû fuir le Tibet en 2010 et qui n'a été rejoint par son mari et ses deux filles qu'à partir de 2015. La vie de Sonam, c'est un récit exceptionnel sur la vie d'une femme au Tibet, avec une culture, une manière de vivre ponctuée des traditions bouddhistes. C'est aussi un récit de résilience et de survie pour fuir le Tibet à travers les montagnes les plus hautes du monde, pour arriver au Népal et arriver ensuite ici en France, un pays dont Sonam, tu ignorais complètement l'existence.
Oui.
Et enfin, Sonam, c'est une vie en France depuis 2011, ponctuée de combats pour s'intégrer, se trouver une place dans cette nouvelle société et s'installer durablement en France avec son mari, ses deux filles et son fils, et aussi, bien sûr, être désormais présidente de l'association Culture Tibétaine Gironde, dont je serais heureuse que tu nous présentes les diverses activités que vous faites à Bordeaux.
D'accord.
Et avant de commencer, je voulais te remercier, Sonam, d'avoir accepté cette invitation. Je veux te remercier pour accepter de nous raconter ton récit. Et à travers ton récit, nous pouvons mettre en lumière l'existence, le quotidien des femmes partout dans le monde, notamment là en Asie, mais aussi l'importance des profils divers de migration, ces profils de migration qui font de notre pays une société multiculturelle. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2024. Dans deux jours débute la Journée internationale des droits des femmes. Et c'est dans ce cadre que j'ai invité Sonam pour son récit de femme en tant que tibétaine et réfugiés en France.
Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur laclédesondes.fr.
pour cette première partie, Sonam, je voulais que tu nous racontes ta vie à toi en tant que fille, en tant que femme au Tibet. Et donc tu m'as mentionné être née le 5 juin 1974 dans une famille d'agriculteurs et que tu avais deux grands frères au Tibet. Est-ce que tu peux me mentionner quelle était ta vie dans ton village dans les hauts plateaux de l'Himalaya ?
Bonjour à tous. En premier, je voudrais vous remercier beaucoup à Sandra qui m'a donné une chance pour raconter ma récit. Qu'est-ce que j'ai vécu au Tibet jusqu'à l'enfance. Voilà, et puis moi, je suis née dans un pays plus haut du monde. Moi, je suis née dans un village, un petit village, on est centaines de familles. Dans notre famille, j'en ai deux grands frères avec mes parents. Moi, j'ai grandi dans un village, on ne connaît rien du tout ailleurs. On connaît juste dans un coin, comme faut garder des animaux, faut s'occuper des fruits, et aider les personnes comme nous. On voit pas tout le monde quoi en fait. Quand j'ai né dans une famille agriculture, j'ai grandi avec mes parents. Malheureusement, mon père elle est décédé à partir de 12 ans.
Et donc c'était ta mère qui s'occupait uniquement de toi et de tes deux frères?
Oui, c'est ça. C'est ma mère qui s'occupait tous les trois. Quand j'étais 7 ans, après j'étais 12 ans, j'ai commencé à aider ma mère. J'étais obligée.
Et donc, quelle était ta journée quotidienne quand tu étais enfant? Tu travaillais toute la journée?
Oui, c'est ça. Le matin, je réveillais avec ma mère à 5 heures du matin. Parce que ma mère, elle part travailler dans la terre pour l'agriculture. Moi, j'étais obligée pour préparer les repas, tout ça. Après, je la porte repas à ma mère dans l'agriculture. Après, on va manger ensemble. Et puis, mon frère, il ne reste pas à la maison souvent parce que ma deuxième frère est la moine. Elle ne reste pas souvent parce qu'elle reste à la monastère.
Au Tibet, est-ce que les figures masculines, il y a une vraie différence avec les femmes? Parce que notamment, il n'y a que les hommes qui peuvent devenir moines.
On est à une culture, on croyait beaucoup de choses dans la bouddhiste. Chaque famille, s'il y a des garçons qui naissent, c'est pas obligatoire, mais les parents ils sont pensés un garçon faut aller à monastère parce que chez nous ça n'existe pas l'école. Là aussi, si les enfants ils s'en vont au monastère, elle va apprendre plein de choses.
D'accord, donc en fait, toi tu n'as jamais été à l'école. On t'a pas appris à lire et à écrire. C'était uniquement les jeunes garçons dans les monastères qui avaient accès à l'éducation.
Oui, c'est ça. Moi, je n'ai jamais été à l'école parce que chez nous, ça n'existe pas l'école en premier. Après, le deuxième, on ne pense pas. Les filles, il faut aller à l'école.
Est-ce que tu pourrais aussi mentionner, par exemple, comment se passait votre vie? Est-ce que la religion bouddhiste, par exemple, prend beaucoup de place ou finalement, c'est juste en arrière pour les grandes fêtes? Mais chaque journée, est-ce que vraiment elle est ponctuée de traditions religieuses bouddhistes? Tu me parlais, quand on se rencontrait, de l'importance aussi du karma dans ta pensée quotidienne. Est-ce que tu pourrais nous dire au Tibet, quelle est l'influence, quelle est l'importance de la religion bouddhiste dans votre vie quotidienne?
Dans notre vie quotidienne, tous les matins, on réveillait. Après, on fait un peu de mantra, on pratique les mantras. Après, on met 7 bols, on met de l'eau, on fait des tableaux de Dieu. Et puis voilà, on pratique un peu mantra avec toutes les familles ensemble. Chaque matin, on pratique ça parce que nous, on croit qu'il y a une réincarnation ou notre karma. Si je fais comme ça, peut-être après, je meurs. J'ai avoir notre vie, quoi, en fait. Ça, c'est des croyants des bouddhistes. Nous, on a aussi appris, si je fais quelque chose pour les autres, on a avec plaisir, faut faire ça. Parce qu'on a pensé que si je fais quelque chose, ça reviendra vers moi.
Et pour toi, grandir donc comme petite fille, comme jeune fille, est-ce que tu pensais un jour imaginer avoir une vie différente? Ou alors pour toi, c'était juste tu allais avoir la même vie que ta maman?
Moi, je n'ai jamais pensé que ma vie, ça changera. Après, je partais du Tibet pour ailleurs. Je ne connais pas le monde, en fait. Je ne connais que du Tibet. Et puis, il y a des ailleurs du monde, mais je ne connais pas du tout les pays, quel pays ailleurs du Tibet.
Oui, c'était quelque chose qui nous avait fait rire, parce qu'il faut aussi apprendre à rire aussi de chacune des expériences. Tu m'avais mentionné qu'au Tibet, tu pensais que tous les Blancs habitaient dans le même pays. Tu ne savais pas qu'il y avait différents pays avec différentes nationalités et différentes cultures finalement.
Oui, c'est ça. Moi, je pensais ça aussi parce que quand je vends des plans, je pensais que c'est le même pays, quoi. Même langage, même traditionnel, des cultures. Je n'ai pas pensé qu'il y a des Europe et États-Unis, c'est différent, quoi.
Quelque chose qui peut des fois nous sembler un peu étrange à nous, Européens, c'est qu'il y a encore beaucoup de régions dans le monde qui sont finalement très éloignées, très excentrées, qui vivent notamment dans les hauteurs de l'Himalaya et qui ont peu de connaissances sur le monde qui les entoure.
Oui, tout à fait, parce que chez nous, moi je vis dans un village, on n'existe pas les télés. Avant, ça n'existe pas les réseaux sociaux, mais maintenant, je pense qu'il y a des gens qui connaissent mieux qu'avant, quoi, parce que grâce aux réseaux sociaux. Sinon, avant, ça n'existe pas. Je n'ai jamais vu de télé. Quand j'étais petite, on n'a jamais vu de télé. On n'a pas d'électricité aussi dans le village.
Il n'y avait pas d'électricité. Vous faisiez tout à la main.
Oui, c'est ça. Avec le pétrole, on met dans un, comment dire, boîte verte. Après, on la bouchon, on fait un tout. Après, on met des... Voilà, on y vit comme ça, quoi.
Oui, donc c'est pour ça que finalement, tu me disais que toute la journée, vous étiez au travail. C'est que vous n'avez pas du tout d'outils qui vous viennent en aide d'un point de vue technologique. Tout était manuel, que ça soit la nourriture, la lessive, le ménage, tout est à faire de manière manuelle.
Oui, c'est ça. En fait, moi, je ne connais pas les lessives avant. Quand je vis dans mon village, je ne connais pas les lessives, ni il y a pas des oreilles. Parce que mes parents, ils sont rigades à la selle. Après, ils sont d'ici tout de suite, on va manger, il y a des l'heure de manger, des choses. Je ne connais pas les l'heure, ça existe ou pas, je ne connais pas du tout.
C'est-à-dire que vous aviez vos journées qui étaient ponctuées finalement par le rythme du travail et par le soleil. Vous n'aviez pas conscience de l'heure.
Non, pas du tout.
Et moi, je trouve que c'est une jolie histoire. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as rencontré ton mari?
Mon mari, c'est un... Comment dire? On n'est pas la même village. Parce que lui, elle vient souvent dans notre village pour vendre des affaires, des petits vêtements, des chaussures. Parce que chez nous, elles n'existent pas les chaussures. On met pas quoi. Quand pendant la fête, on met la chaussure, mais sinon, on met pas.
Je fais un tout petit aparté. Est-ce que tu pourrais nous raconter la première fois que tu as mis des chaussures, la sensation que ça t'avait fait?
C'était la première fois quand j'étais à 7 ans, je pense. Je rappelais bien mon grand frère, elle m'a amené une chaussure avec les. Comment dire? Chaussure avec un peu bleu. C'est des. Comment dire? Comme des cotons. Après, je l'ai mis ça, j'étais un peu surprise, quoi. C'était un peu bizarre parce qu'on marche tout le temps pénule. Après, quand je l'ai porté, c'était un peu bizarre, mais j'ai pas envie de porter tout le temps. Je garde pour les Lhosa. Lhosa, c'est nouveau langue des Tibétains. Après, pendant les Lhosa, on est fait pendant 15 jours. En fait, avec tous les villageurs dans la voisin, on va. Chacun son tour, faut manger, on danse, on chante, on fait tout ça. Après 15 jours, je lave cette chaussure et je la garde pour l'année prochaine.
Oui, donc finalement, les chaussures sont quelque chose de luxe, quasiment.
Oui, c'est ça, parce que c'est rare. Faut trouver une chaussure, faut avoir cette. La chaussure chaque année, quoi. C'était un peu compliqué parce que chez nous, quand j'étais petite, je rappelais bien, on n'existe pas les monnaies. Je ne connais pas, je n'ai jamais touché la monnaie non plus aussi.
D'accord.
Parce que dans notre village, il y a juste un petit magasin. C'est un épicier. Ils vendent des sucres, du sel, du thé, un peu de bonbons. Mais sinon, il n'y en a pas du tout, quoi, en fait. Parce que nous, on est agriculture, on fait tout, voilà.
Oui, finalement, c'est plus une économie de troc et à l'échelle des villages. Chacun, en fait, s'échangeait les produits pour pouvoir survivre ensemble.
Oui, c'est ça. Comme les nomades, chez nous, il n'y a pas de nomades. Nomades, ils sont bien chez nous, il faut changer avec des grains, du blé, du maïs ou du samba. Samba, c'est une poudre des orges. On mange souvent avec du thé salé. Après, les nomades, quand ils sont venus dans notre village, on change avec viande. On donne des sambas, soit des sambas, soit des blés, soit des l'orge. On change, comme un troc.
Donc, les nomades, finalement, c'est ce que tu appelles les commerçants itinérants. C'est ceux qui passaient de village en village et qui permettaient de faire vivre l'économie au niveau local.
Oui, c'est ça. Après, les camps nomades, ils sont venus chez nous. Je rappelais bien mon père, il a, comment dire, invité chez nous. S'ils sont restés à un mois ou deux mois, c'est gratuitement. On est pensé, c'est, comment dire, c'est hospitaliser les autres. On est très contents de faire ça, quoi.
Et donc, ton mari, finalement, c'était un nomade aussi?
Non, mon mari, c'est pas nomade. Nomade, ils sont vendent du beurre, du fromage et des viandes. Mais mon mari, c'est un, je dirais, un petit business qui vend des vêtements, quoi, en fait.
Et donc, ton mari, tu m'as dit l'avoir rencontré dans ton village le jour où il venait avec des tissus, avec des vêtements, et que pour se marier au Tibet, c'est à l'homme de faire la demande à la famille. Donc, lui, il a fait la demande à ta mère.
Oui, c'est ça. Mon mari, il a demandé à ma mère, parce que quand lui, elle est arrivée dans notre village, mon père, elle est déjà décédée. Et puis, ma mère qui s'occupe de moi, quoi, en fait. Toutes les familles. Après, lui, il a demandé ma mère. Mais ma mère, elle a trouvé c'est bien, parce que lui, elle est gentille, et voilà. Mais moi, je n'ai pas accepté en premier, parce que je ne voulais pas partir avec lui, quoi, en fait. Ma mère, elle est toute seule, je ne peux pas laisser comme ça.
Car ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les sociétés traditionnelles tibétaines, la femme, l'épouse, va dans la famille du mari. Et du coup, abandonne aussi sa vie de village.
Oui, c'est ça. En traditionnel, normalement, on est obligé, il faut aller chez son mari, quoi, en fait. Mais moi, je n'ai pas accepté, parce que je l'ai déjà raconté, mon mari. Je ne peux pas laisser ma mère toute seule, quoi, parce que depuis j'étais petite, mon père, elle est décédée. Après, c'est elle qui s'occupe de tous les enfants. Après, mon mari, elle a accepté parce que chez lui, il y a des, comment dire, il y a des, sa sœur, elles sont toujours là-bas avec sa mère. Après, il peut faire aller chez lui et chez moi. Après, lui, elle a accepté ça. Après, on est mariés à coutume, quoi.
Que finalement, tu étais aussi en dehors des traditions, vu que tu as affirmé vouloir rester avec ta mère.
Ouais, c'est ça, mais je voulais pas, comment dire, quitter ma mère, quoi, parce qu'elle est toute seule. Je peux pas laisser comme ça. Mon père, il est décédé, je l'ai mis dans la tête. Je peux pas laisser ma vie, quoi, en fait. Ma mère, elle est comme ma vie. Mais maintenant, malheureusement, je ne peux pas faire venir ma mère ici. Mais elle est toujours en Inde. Elle est arrivée jusqu'en Inde, quoi. En fait.
Pour conclure cette première partie concernant ta vie de petite fille, de femme, de jeune femme au Tibet, pourrais-tu nous raconter qu'est-ce qu'être une mère au Tibet? Est-ce que tu vois une différence entre la maternité au Tibet et la maternité en France?
Là, je dirais quand au Tibet, en France, c'est très différent. Tibet, quand on a des petits, comme moi, une fille, on n'a pas de choix, quoi, en fait. On n'a pas de choix, on n'a pas de, comment dire, choisir, faut aller à l'école. On ne pense pas comme ici, quoi. Parce que chez nous, ça, en premier, ça n'existe pas l'école, faut les filles. Après, quand les filles, on est obligé, faut travailler avec les parents. On n'a pas choix, quoi, en fait. Ici, en France, vraiment, je suis très contente pour mes enfants parce qu'ils peuvent aller à l'école, ils peuvent apprendre plein de choses. Ils savent du monde, quoi. Si je reste au Tibet, les enfants, ils sont comme moi. Ils savent rien du tout, quoi, en fait.
Tu me mentionnais qu'en 2010, pour des raisons politiques, tu as dû malheureusement quitter ta mère, quitter ton mari, quitter tes deux filles qui étaient toutes petites à cette époque. Et cette partie-là, nous la verrons tout de suite après la musique que tu as choisie, Sonam, qui s'appelle Peuché.
Thank you.
d'écouter Peuché, c'était une musique de ton choix. Sonam, est-ce que tu peux nous présenter rapidement pourquoi tu as choisi cette musique ou même la musique tibétaine?
La musique, je l'ai choisie parce que j'aime bien cette son avec les, comment dire, bois des bambous. C'était notre traditionnel dans mon village, quoi.
D'accord. Est-ce que la musique a une part importante dans votre vie quotidienne au Tibet, la musique, les danses?
Je trouve ça, c'est oui, on pensait très important parce que quand je travaille dans l'agriculture, souvent on chante, on danse, on n'a pas des, comment dire, les oreilles, faut arrêter de travailler. On peut choisir comme on veut, quoi, en fait.
Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur la clé des ondes.fr.
Chers auditeurs, nous allons continuer cette émission qui se concentre pour les journées des droits des femmes sur le parcours exceptionnel de Sonam. Donc Sonam, tu nous as parlé durant toute la première partie de ta vie au Tibet, une vie faite de travail, une vie faite de tradition, une vie aussi faite auprès de ta mère et aussi une vie finalement plutôt isolée en haut des montagnes de l'Himalaya. Et toute cette existence fait que ton parcours pour venir ici jusqu'en France est d'autant plus exceptionnel parce que pour toi, c'était une découverte réel du monde. Pour des raisons politiques que nous ne mentionnerons pas, tu as dû fuir le Tibet. En 2010, comment as-tu rejoint le Népal ?
En 2010, j'ai quitté du Tibet. Après, j'ai parti avec des personnes qui traversaient la frontière du Tibet au Népal. Moi, j'ai marché pendant un mois et demi avec d'autres personnes aussi. On a des passeurs, faut amener jusqu'au Népal.
Et tu as marché donc dans la plus haute montagne du monde, qu'est l'Himalaya ?
Oui, tout à fait. On a traversé toutes les montagnes parce que le pasteur nous donne des courageurs. Chaque fois, lui, elle dit, on descend ça, après on y arrivera au Népal. Chaque fois, lui, elle dit, ça fait un mois et demi, on est marché, quoi.
Et comment tu étais mis en lien avec ces pasteurs? Est-ce que cela coûtait une fortune ou finalement, ce n'était pas si cher que ça?
Le pasteur, je disais, c'était... J'ai eu une bonne chance pour venir avec cette personne. Quand je quittais, j'ai vu des, comment dire, des personnes qui partent du Tibet aussi, comme moi. Ils ont quitté le Tibet. Après, ils ont fait connaissance avec cette passeur. Après, on a payé un peu d'argent, mais c'était pas, ça coûte cher, je pense. Parce qu'on a payé 700 yuans, des monnaies de Chine, quoi, en fait.
Car ce qu'il faut bien comprendre, chers auditeurs, au niveau des récits de migration, c'est que les régions où il y a une oppression politique, hein, notamment que ce soit le Tibet, mais il y a beaucoup d'autres régions dans le monde, il y a des vrais réseaux, hein, qu'on appelle des réseaux de passeurs, qui exfiltrent ces personnes contre de l'argent, il n'y a pas du tout un but humanitaire derrière, et qui du coup font des vraies routes migratoires qui permettent à ces personnes d'échapper à l'oppression politique. Et donc toi-même, le Tibet qui est, je le redis, hein, le pays le plus haut du monde, on l'appelle le plateau du monde. Tu as donc traversé les montagnes, tu les as traversées à pied. Est-ce que vous étiez aidé d'animaux? Comment s'est passée ta route à travers, je pense, les montagnes les plus dangereuses du monde?
Oui, c'était dangereux. Faut traverser toutes les montagnes. On a traversé plein de montagnes. On est monté jusqu'en haut. Après, on a descendu. Après monter, chaque fois l'empoisseur nous donne des courageux, comme tout à l'heure je vous ai dit. Lui, elle dit, on descendra ça, après on est déjà arrivé au Népal. Chaque fois, lui, elle raconte ça. Mais là, c'est faut donner des courageux, quoi, en fait. Là, je trouve c'est dangereux. Moi, j'ai jamais pensé, je suis sortie des montagnes. Je peux arriver, j'ai jamais pensé ça, parce que je ne peux pas donner sûr, je peux sortir des montagnes ou pas. Peut-être je mors à la montagne.
Comme tu mentionnais, en fait, toi, tu as grandi entouré de montagnes, comme si finalement, c'était ton univers. Ça se refermait tout autour de toi. Tu ne savais rien du monde derrière, justement, ces montagnes.
Oui, c'est ça. On ne connaît pas du tout les gens qui parlent du Népal. Népal, en tibétain, on a dit Payul. Après, lui, elle a dit, c'est, on y arrivera l'endemain. Chaque fois, lui, elle raconte ça. Après, chez moi, il n'y a pas très haut, quoi. On habite dans un village, il n'y a pas haut des montagnes comme ça, mais on est obligé, faut traverser cette montagne. Si on traverse pas, c'était dangereux pour tout le monde. Après, on est obligé, faut cacher. La journée, on dort à la montagne. Après, la nuit qui tombe, on a commencé, faut marcher, quoi.
Est-ce que vous marchez la nuit pour justement vous protéger des possibles militaires chinois qui, j'imagine, sont très nombreux dans cette zone?
Oui, c'est ça. partout, c'est compliqué, quoi. On est obligé, faut voilà, marcher que les nuits. Après, on a presque un mois, on n'a pas de nourriture, faut à manger, mais on a mangé plusieurs de neige, quoi.
Tu mangeais que de la neige, c'est-à-dire que tu te nourrissais finalement de tout ce qui t'entourait. Vous n'aviez pas de nourriture avec vous?
Non, pas du tout. Parce que quand on est, comment dire, traversé tous les montagnes, on ne peut pas apporter de nourriture tout le temps. C'était compliqué. Au début, on a apporté pas mal de choses, mais les passeurs, elle dit, on ne peut pas apporter tout, il faut jeter. Après, on a jeté partout, quoi, en fait.
Combien de personnes étiez-vous? Est-ce qu'il n'y avait que des femmes? Est-ce qu'il y avait des hommes? Est-ce qu'il y avait des enfants dans ton groupe?
Dans mon groupe, on est trois femmes. On est trois femmes, il y a plusieurs des hommes, parce qu'on est trentaine de personnes. Et puis, il y a trois passeurs.
Et ce qui est important aussi d'en parler, mais on reviendra plus tard sur cette question-là, mais cette route-là, ton mari, avec tes deux filles, qui étaient petites, va aussi la faire. Donc, ton mari, avec ses deux enfants, vont traverser les montagnes.
Oui. Mon mari aussi, quand lui est sorti du Tibet, lui elle a apporté la dernière fille là qui est petite, 3 ans. Lui elle a fait porter parce que il y en a encore une fille. Lui elle a amené avec lui. C'est juste 14 ans quoi en fait.
Et ta mère elle-même va aussi traverser ces mêmes montagnes, mais pour elle le voyage s'arrête pour le moment en Inde.
Oui, c'est ça. Ma mère, elle a traversé les montagnes en 2014 jusqu'en Inde. Ma mère, elle a traversé pas comme moi, parce qu'elle a âgé et puis elle trouvait des passeurs plus faciles que moi, quoi, en fait. Elle peut venir par la camion, cachée dans des camions qui amenaient des choses. Ils sont cachés dans la camion, quoi.
Ils étaient cachés dans les marchandises, parce que comme tu mentionnes aussi Sonam, toi t'arrives quand même en 2010, donc ça fait plus de 10 ans que tu es arrivée. Mmh. Et il y a deux choses à prendre en compte. Tout d'abord, votre capacité de survie, c'est-à-dire que tu mentionnais que vous ne réfléchissez pas. Vous essayez juste d'avancer, et vous n'analysez pas ce qui se passe autour de vous pour justement avoir une force pour continuer la route.
Oui, c'est ça. Quand on n'a pas de choix, on est obligé, il faut faire ça. J'ai jamais pensé d'allier moi, parce que si je pense comme ça, je ne peux pas, moi-même, je ne peux pas donner des courageuses, il faut avancer, quoi.
Et deuxièmement, une chose aussi qui est importante, c'est que beaucoup de notre société actuelle, contemporaine, depuis 2015, c'est que tu me disais que les routes de migratoires étaient moins dangereuses en 2010 qu'aujourd'hui. Maintenant, tout est fait pour bloquer l'arrivée des personnes qui fuient les persécutions, et c'est pour ça que ta mère a passé par les camions et que ta mère est bloquée en Inde.
Oui, c'est ça. Quand j'ai traversé la montagne, je l'ai vu des personnes qui mordent à la montagne aussi, qui a tombé, glissé par la montagne. Nous, on a pensé pas, faut arrêter ici, quoi, parce qu'on a pensé juste, faut avancer, faut avoir bien vie, dans un pays liberté, quoi, en fait.
Et ce qui est important aussi avec ton récit Sonam, c'est, pour moi, je trouve ta capacité d'adaptation, parce que comme tu dis, t'es sortie des montagnes, où tu étais un petit peu dans un vase clos, finalement, dans tes hauts villages du Tibet. Et tu es arrivée, donc, en 2011, à Kathmandu, au Népal. Quelle sensation cela t'a fait d'arriver dans une ville urbaine, avec énormément de monde partout, avec des voitures, avec des avions qui passent au-dessus de la ville? Quelle sensation cela t'a fait?
Quand je suis arrivée au Népal, c'était un peu... J'ai trouvé, c'est vraiment... Il y a monde. Ailleurs, dans notre village, ça existe. Je sentis ça. Après, c'était compliqué, c'est quand on ne parle pas le langage. Mais au Népal, quand même, il y a beaucoup de Tibétains qui vivent là-bas. C'était un peu facile, quoi, en fait. Après, voilà, je restais pendant 6 mois au Népal. J'ai appris un peu de népalais parce que j'étais obligée, il faut parler avec les autres. Après, j'ai appris anglais aussi au Népal, quoi.
Tu me mentionnais aussi cette histoire qui est touchante, cette histoire de solidarité entre deux femmes de pays complètement différents, de mondes différents. C'est au Népal que tu as rencontré une dame états-unienne qui t'a beaucoup aidée dans ta vie quotidienne et aussi dans ta route de migration.
Oui, tout à fait. Grâce à elle, je suis arrivée jusqu'en France. Sinon, je ne savais pas qu'il existe des France ou des États-Unis. En première fois, quand je l'ai vue, parce qu'au Népal, Bouddha, on fait la Kora. Kora, c'est en tibétain, mais... on marche autour des stupas, quoi. Après, on pratique les prières, des mantras. Après, j'ai rencontré une dame, elle s'appelle Charlie, elle vient des États-Unis. Elle est venue au Népal pour apprendre les Tibétains. On a fait connaissance, elle m'a demandé mon parcours du Tibet jusqu'au Népal. Après, j'ai raconté toutes mes histoires comment je suis arrivée jusqu'au Népal, quoi. Après, elle a vraiment touché. Elle a dit, elle peut m'aider pour apprendre l'anglais. Moi, j'ai essayé pour apprendre un peu le tibétain. Je ne peux pas lire, écrire, mais quand même, je parle en notre langue maternelle. Après, on a fait connaissance. Elle m'a aidé plein de trucs. Il faut payer la loyer, tout ça. Pendant 6 mois, j'ai resté au Népal. C'est elle qui m'a aidé tout, quoi, en fait.
Et donc, tu as appris l'anglais alors que finalement, tu n'avais jamais appris ni à lire et à écrire.
Oui, c'est ça. J'étais obligée parce que je pense... Elle m'a expliqué que l'anglais, c'est... on peut l'utiliser partout dans le monde. Si je vais quelque part, je peux parler en anglais. Plutôt les personnes qui parlent anglais, quoi, dans le monde. Voilà, j'ai appris ça. Après, j'ai essayé d'apprendre. Moi, j'aime bien faut apprendre des choses nouvelles. Un jour, elle m'a raconté un peu de choses parce qu'au Népal aussi, c'est pas facile. Il faut vivre... On n'a pas de droit comme demander d'asile, n'existe pas du tout. Elle m'a dit, si tu pars quelque part, je t'aide. Après, c'est elle qui m'a aidée jusqu'à arriver en France.
Comment se fait-ce que tu es partie du Tibet, tu es arrivée au Népal et qu'est-ce qui t'a amenée finalement en Europe? Pourquoi l'Europe?
L'Europe, je ne sais pas. Je peux dire que ça, c'est mon karma, c'est la destination de ma vie. Parce que j'ai pas choisi c'est l'Europe ni des États-Unis, mais j'ai pensé c'est le même pays. J'ai pas demandé à elle ces différents langages ou quand elle m'a donné cette comment dire conversation, je l'ai accepté parce que elle a pensé pour moi ma vie. Voilà. Après, quand je suis arrivée ici, c'était pas la même langue. Après, je pense le visage, les couleurs, les cheveux, tout ça le même, mais le langage c'est pas la même quoi. J'étais un peu voilà, surprise, ça. Mais là, c'est mon karma, quoi. En France, je suis arrivée comme ça.
Tu me mentionnais que toujours avec ton réseau de passeurs, à l'époque, vous pouviez prendre l'avion. Donc, ils vous faisaient des faux passeports. Ils t'ont mis dans l'avion et tu es arrivée, mais complètement par hasard, à Paris.
Oui, c'est ça. Parce que la dame États-Unis qui m'a aidée, c'est elle qui m'a fait là, toutes les démarches avec les passeurs. Avant, je ne sais pas si c'est passeur, si j'appelle passeur ou pas. Je ne connais pas du tout. J'ai appris les mots ici, quoi, en France. Voilà. Après, c'est lui qui m'a fait le passeport, tout ça. Mais je ne connais pas tout passeport. Je ne connais pas parce que chez moi, ça n'existe pas du tout.
D'ailleurs, est-ce qu'au Tibet, vous avez des papiers d'identité?
Avant, ça n'existe pas du tout. Chez moi, je n'ai jamais eu des papiers. On n'a jamais touché le crayon. Je ne connais pas du tout.
Et donc finalement, tes premiers papiers d'identité ont été ce faux passeport créé pour que tu puisses venir t'installer en France.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Quand tu es arrivée à Paris, en France, quelle a été ta sensation? Parce que tu me mentionnais n'avoir jamais entendu parler de l'Europe ni de la France.
Oui, c'est ça. Quand la passeur, elle m'a amenée jusqu'à Paris, après elle m'a laissée dans un petit parc vers la... Maintenant, je le sais, c'est la chapelle. Il y a derrière la... Comment dire...
Stalingrad, le port de la chapelle.
Oui, c'est ça. Port de la chapelle, il m'a laissé là-bas. Après, voilà. Au début, j'ai essayé de parler anglais avec les autres, mais les gens ne parlent pas anglais. Mmh. Après, ils ne répondent pas. C'était dingue, quoi. Moi, j'étais vraiment surprise. Comment je suis arrivée, je ne sais pas du tout, mais ça, je trouve que c'est mon karma, quoi. Jusqu'à amener en France.
Finalement, ton destin était d'arriver en France.
Voilà, tout à fait. Moi, je crois ça.
Thank you. écouter Arig Lavonne Kiyap. Je m'excuse tout d'abord pour mon très fort accent français. Donc c'est la deuxième musique tibétaine que tu as choisie, Sonam. Est-ce que tu peux nous dire ce que veut dire du coup Arig Lavonne Kiyap?
La deuxième musique, Arig Lavonne Kiyap, c'est une musique traditionnelle comme avant. C'est dans le village, on souvent utilise le musicien avec le bampo. Après ça, c'est un traditionnel quoi en fait. Chaque village, il y a un différent goût. Ça, c'est juste pour les présentations des montagnes, des natures.
Ah d'accord, donc ouais. Elle parle en fait de votre environnement naturel.
Oui, c'est ça.
Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur laclédesondes.fr.
Nous démarrons cette troisième et dernière partie sur finalement ton récit du Tibet à la France et mentionner juste avant la musique ton arrivée. Ta stupeur d'arriver en France, qu'on porte de la chapelle. Et je voudrais que tu nous parles, pour démarrer, de comment tu as pu faire ta demande d'asile, car tu m'as mentionné que quand tu es arrivé en 2011, finalement, c'était très très compliqué pour les étrangers, pour les demandeurs d'asile, d'avoir des informations vers qui aller, vers quelle institution, qui peut nous aider.
La passeur, elle m'a amené jusqu'à la porte de la chapelle. Après, moi, j'ai resté là-bas, dans un petit parc. Je ne connais personne. J'étais obligée de rester avec les valises. Après, j'ai raconté une dame tibétaine. Elle est venue vers moi, elle m'a demandé « Vous êtes nouveau ici? Qu'est-ce que vous faites là ?» Voilà, il m'a posé des questions. J'étais très contente parce que quelqu'un qui m'a parlé au tibétain. Après, voilà, c'est elle m'a amenée chez elle. Pendant quelques jours, elle m'a voilà, gardée avec elle, quoi, en fait. Après, je ne sais pas comment ça marche, il faut demander d'asile, il faut démarcher, tout ça, je ne connais rien de tout. Après, l'EDEM, elle m'a aidée, faut, voilà, comment je peux faire, comment je peux aller, où je peux aller, elle m'a expliqué tout.
Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, nous, Français notamment, c'est que pour de nombreux étrangers, la question même de l'administration, c'est quelque chose de complètement nouveau. Remplir des papiers, aller voir des institutions. Nous, en France, on grandit dans un pays très, très porté par l'administration, qui a son positif et son négatif. Et l'une des plus grandes difficultés des étrangers quand ils arrivent en France, c'est notamment la question de l'administration. Donc toi, comment, du coup, tu as pu faire tes demandes, aller voir les institutions? Est-ce qu'on t'a accompagné? Est-ce que des associations étaient présentes à tes côtés?
Non, je ne connais pas les associations ni des connaissances personnes en France. Après, voilà, quand Leda elle m'a expliqué, ici c'est en Europe, et là, dans l'Europe, c'était un pays, France, c'est elle qui m'a voilà, fait connaissance du nom des pays, quoi, en fait.
Donc finalement, tu as appris le nom du pays dans lequel tu étais au bout d'une semaine en France.
Oui, c'est ça. Après, voilà, elle m'a dit, faut aller, elle m'a donné l'adresse où je peux aller, il faut demander d'asile, il faut déposer le dossier, tout ça.
Tu as été indiqué par cette dame tibétaine d'aller dans la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile qui s'appelle donc les SPADA. Et comment tu as fait? Tu t'es mis dans la ligne? Est-ce qu'il y avait beaucoup de personnes ou finalement, à cette époque-là, c'était organisé de manière plutôt rapide?
C'était un peu compliqué parce que je ne connais pas en première fois le langage, mais la dame elle m'a dit qu'il faut faire en ligne. Il faut aller tôt du matin. Après, les dames, elles n'habitent pas vers la porte de la chapelle, elles habitent loin. Après, j'étais obligée, il faut dormir la nuit à la route, quoi, dans la rue.
Tu dormais dans la ligne d'attente de la SPADA?
Oui, c'est ça.
Il y avait beaucoup de personnes dans ce cadre-là?
Quand j'ai dormi, il n'y a que 3 personnes. On est dormi, on a mis un carton, après on a dormi la nuit là-bas. Après, le lendemain matin, on a fait la ligne, quoi, en fait.
Et donc, arrivé à la SPADA, c'est là où du coup tu as pu faire ta demande d'asile. Et après ta demande à la SPADA, ton dossier a été envoyé donc à l'OFPRA, qui est, je le dis tout de même, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Combien de temps as-tu attendu entre ta demande et la validation de ton statut?
J'ai attendu pendant un an.
Et ton statut a été validé par l'OFPRA ou par la Cour nationale du droit d'asile?
Par la OFPRA.
Par l'OFPRA. Et donc,
oui.
Pendant un an, que faisais-tu à Paris?
À Paris, au début, quand j'ai entré pour les PADA, pour demander, comment dire, première fois le dossier, ils m'ont donné le numéro 115. Il faut appeler un 115 pour avoir dormi en place chaque jour, quoi.
Donc le 115, le numéro d'appel d'urgence pour avoir des logements la nuit. Ce sont des numéros qui sont d'ailleurs souvent malheureusement saturés dû au manque de logements d'urgence, et notamment depuis quelques années où il y en a de plus en plus qui ferment, surtout dans les grandes villes.
Oui, c'est ça. 115, si on appelle plutôt le matin, à 5h du matin, on trouve des places pour dormir le soir. Des fois, on trouve une semaine, quoi. On peut avoir une place pour dormir une semaine, mais la journée, on n'a pas le droit, il faut rester dedans. Il faut sortir du matin, quoi.
Finalement, tu as passé un an dans les rues parisiennes, seul, à attendre la décision de l'État français, à savoir si tu pouvais rester sur le sol français ou tu étais accompagné par des associations ou par la communauté tibétaine.
Non, j'ai été pendant 11 mois en 115. Après, pendant le 115, j'ai pensé qu'il faut apprendre le français. J'ai été dans une association pour inscrire, parce qu'il y a des Tibétains qui vont là-bas, il faut apprendre le français. Cette association, je l'ai payée à 50 € par l'année. Dans la semaine, ils sont nous renseignés pour français, 2 heures chaque semaine. 11 mois, j'ai été comme ça. Après 11 mois, j'ai trouvé une place pour dormir dans la CADA.
Alors le CADA, du coup, c'est le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Ce sont des logements qu'on pourrait dire sociaux qui sont réservés aux demandeurs d'asile le temps que leur décision soit validée ou non par les institutions de l'État.
Oui, tout à fait. La SPADA, ils sont envoyés dans la CADA. Elle m'a demandé. Je l'ai accepté parce que je ne peux pas rester toujours comme ça. Ils sont envoyés à Charles-sur-Saône.
Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'État français, de plus en plus, mais c'est aussi pour enlever le nombre de personnes qui est à Paris et donc qui fait grandir les procédures, va installer des demandeurs d'asile dans d'autres villes pour aussi que les autres villes soient en capacité d'aider ces personnes, on l'espère, qui arrivent sur le territoire français. Et donc tu as été validé par l'OFPRA pour un statut de réfugié, donc un statut de 10 ans.
Oui, c'est ça.
Donc Sonam, une fois que ton statut de l'OFPRA a été validé, donc tu as le statut de réfugié politique, où est-ce que tu es parti t'installer?
Après Charles-sur-Saône, quand j'ai eu des papiers, ils m'ont dit que dans la CADA, on n'a pas droit parce que ça, c'est CADA, c'est un centre pour les demandeurs d'asile. Moi, j'ai déjà retenu le papier.
Oui, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut peut-être préciser. C'est que lorsque ces personnes-là, donc demandeurs d'asile, ont leur statut validé, ils ont entre 4 et 6 mois pour quitter le CADA et dans l'espoir de trouver un autre logement. Donc on voit notamment en ce moment à Bordeaux de plus en plus de personnes qui ont un statut de réfugié, de protection subsidiaire, d'apatride, qui se retrouvent à la rue parce qu'on leur demande de partir du CADA, qui n'est réservé que pour les demandeurs d'asile.
Moi, j'ai eu des chances parce que ma assistante sociale, elle m'a trouvé dans un endroit où j'ai pu aller. Après, elle m'a proposé qu'il faut aller à Bourg-en-Bresse.
Et donc l'assistante sociale, tu as trouvé un logement social à Bourg-en-Bresse?
Oui, c'est ça. C'est pas des logements sociaux, c'était un foyer, comme à CADA, mais nous, on n'a pas des personnes accompagnées comme l'assistance sociale, quoi.
Et donc, à partir de ce foyer, tu parlais de mieux en mieux le français, j'imagine un petit peu mieux. Comment tu organisais ta vie en Bourg-en-Bresse? Comment tu t'es finalement installée, intégrée à Bourg-en-Bresse en France?
À Bourg-en-Bresse, j'étais arrivée en 2012, mois d'octobre. Après, j'ai installé dans un foyer, il y a comme moi, il y a plein de monde, mais il n'y a pas de Tibétains. Mais toute la journée, je n'ai rien à faire. J'ai toujours essayé pour apprendre le français, pour écrire ou lire. J'écoute l'audio, tout ça.
Et te rappelles-tu des différentes nationalités qui étaient présentes avec toi dans le foyer?
Dans le foyer, il y en a des, marocaines, il y a des Afghanistan, des Pakistan. On est tout le monde, quoi. Il y a des Africaines aussi.
Donc finalement, dans le foyer, vous étiez tous ensemble avec des parcours migratoires plus ou moins équivalents et qui voulaient au maximum s'intégrer et trouver un travail en France.
Tout à fait. Dans le foyer, on peut rester, on paye un petit loyer, quoi. Après, par la CAF, nous aide, faut payer chaque mois les loyers. Si on trouve du travail, on peut payer un peu plus, mais pas trop, quoi, en fait.
Tu m'avais mentionné aussi à Bourg-en-Bresse, parce que tout ton parcours migratoire, Sonam, et c'est ça que je trouve ça marquant, c'est qu'il est toujours ponctué de rencontres avec des figures féminines très fortes. Donc il y avait la dame états-unienne au Népal, et tu as rencontré aussi une femme française à Bourg-en-Bresse qui t'est venue en aide au moment où tu arrivais dans cette nouvelle ville.
Oui, c'est ça. Quand j'habite dans un foyer, après j'ai été dans une association vers la Rissouze, c'est appelé sans des ressources, quoi. Il y a un accueil pour les personnes qui ne parlent pas très bien français. et puis qui trouve pas de travail. J'ai été là-bas, j'ai raconté une dame, elle s'appelle Jacqueline. Elle m'a renseigné un peu pour comment apprendre le français. Des fois, elle m'a aidé pour, comment dire, prononciation du français aussi. Après, Jacqueline, elle m'a raconté une dame aussi pour apprendre le vélo, parce que dans ma vie, j'ai jamais fait le vélo. Chez moi, elle n'existe pas du tout. J'ai appris une première fois en France, quoi.
D'accord, donc en fait, ces deux dames françaises qui, j'imagine, étaient plutôt âgées, ça devait sûrement être des retraitées, t'ont appris le français, t'ont appris les manières de vivre en France, t'ont appris le vélo, et par elles, tu as pu aussi trouver un travail ?
Elle a déjà des retraites, mais par elle, je n'ai pas trouvé de travail. Mais par la ressource, c'est une association à Bourg-en-Bresse. Il y a une dame qui m'a aidée pour trouver un travail dans une usine.
C'était une usine de quoi, ton premier travail ?
Le premier travail, avant ce travail, j'ai trouvé une association Boussole pour faire le repassage. Mais pendant un mois, j'ai fait. Après, je n'ai pas pu parce qu'il faut faire des démarches, il faut venir mon mari avec mes enfants. Mais dans la usine, j'ai travaillé pendant 6 mois, emballage de carton.
Comme tu me le mentionnais, à partir du moment où tu as pu avoir tes 10 ans et être installé un peu plus en France, tu as donc fait la procédure de la réunification familiale. Donc la réunification familiale, c'est un procédé qui permet aux personnes qui ont la protection internationale de faire venir leur famille. Et donc ton mari et tes deux filles t'ont rejoint après plus de 5 ans où tu étais partie.
Oui, c'est ça. En première fois, quand j'ai retenu le papier, je l'ai envoyé tout, fait la copie, et je l'ai envoyé en Inde. Mais mon mari, il faut aller à l'ambassade, il faut demander un visa, il faut venir en France.
Et donc, ta famille, donc ton mari, tes deux filles, sont arrivées en France en 2014?
Oui, c'est ça, en 2014.
En 2014, et ça a dû être un moment incroyable de pouvoir les récupérer, de les emmener dans ton nouveau quotidien protégé en France.
Oui, c'est ça. Quand première fois, quand ils sont arrivés, ma petite fille, elle ne me connaît pas. Elle m'appelle sœur. Adja, chaque fois, elle m'a dit ça. C'est vraiment touché le cœur, quoi. Mais je ne sens pas très mal parce que quand j'ai quitté le Tibet, elle a que 10 mois. Elle ne sait pas sa mère, quoi, en fait.
Pour toi, qu'est-ce que cela représentait d'offrir une vie, disons, avec des codes français, notamment à tes deux filles?
Maintenant, je pense mes enfants. Et moi-même, chaque fois, je dis à mes amis, je veux un nouveau né en France, quoi. Parce qu'au Tibet, c'est pas comme ça. Là, la culture, des habits, on a changé tout, quoi, en fait.
Oui, finalement, tu me mentionnais que tu as l'impression d'avoir une deuxième vie, d'être rené en France, parce que tu as découvert tellement de choses que c'est une deuxième identité qui s'est créée en suivant la première tibétaine.
Oui, tout à fait. Je me sens tout ça. Parce que chaque fois, j'ai dit, mes enfants aussi, ils ont vraiment des chances pour d'avoir venir en France, pour apprendre et tout. Après, il faut découvrir tout le monde dans la vie, quoi, en fait. Si on reste au Tibet, on ne sait rien de tout, quoi.
Et tu me mentionnais aussi qu'à Bourg-en-Bresse, avec ton mari, vous avez ouvert, du coup, un restaurant tibétain.
Tout à fait. À partir de 2007, on a un projet pour ouvrir un restaurant parce que mon mari ne parle pas très bien français. En plus, lui, il a un peu de problèmes de santé. Après, si je vais au travail, je ne gagne pas beaucoup parce que Bourg-en-Bresse, c'est une ville, c'est une petite ville, quoi. On n'a pas assez de travail. Après, on a fait le projet à partir de 2007. En 2018, on a ouvert le restaurant.
Ton restaurant, tu l'as ouvert en 2018 et en 2020, au mois de juin, après le confinement, tu es arrivé à Bordeaux. Qu'est-ce qui t'a mené, du coup, à nous rejoindre ici à Bordeaux ?
À Bordeaux... Je suis venue parce que ma grande fille, elle habite à Bordeaux avant. Chaque semaine, elle m'appelle. Chaque semaine, elle me demande de approcher d'elle, quoi, en fait. Parce qu'elle est toujours manque. Si faut aller à Bourg-en-Bresse, à Bordeaux, ça prend du temps. Chaque mois, elle me demande. Après, un jour, j'ai décidé. Dans une semaine, on a déménagé, quoi.
Et donc, tu es arrivée à Bordeaux où tu as, dans un premier temps, travaillé au niveau des personnes âgées. Tu disais que tu aimais beaucoup ce travail, mais que ça t'a abîmé d'un point de vue physique.
À Bordeaux, quand on est déménagé là, on a trouvé une maison privée. Au début, on a loué une maison privée. Un jour, j'ai regardé dans la Facebook, il y a une formation sur l'assistant de vie aux familles. Après, j'ai essayé contact avec eux. Ça m'a donné une chance pour faire la formation avec eux. Pendant 2 mois, j'ai fait la formation. Après, j'ai eu des certificats à domicile qui m'a donné du travail pour aide à domicile. Pendant un an, deux mois, j'ai travaillé ça.
Et au sein même également de la communauté tibétaine, hein, tu as une place importante ici, Sonam, parce que tu es présidente de l'association Culture Tibétaine Gironde et tu travailles également en tant qu'interprète, interprète du tibétain vers le français, ce qui te permet de venir en aide à tes compatriotes qui sont installés, que ce soit en Gironde, également au niveau national.
Oui, c'est ça. Après les aides à domicile, j'ai vu un problème de santé. Les deux genoux s'est abîmé parce que quand on est jeune, on a déjà commencé du travail à cause de ça, peut-être. Pas juste pour les aides à domicile, je pense. Après, j'étais obligée, faut arrêter de travailler. Mon médecin est obligé, faut arrêter ce travail, quoi. Il faut changer de travail. Après, j'ai commencé, faut faire des choses en tapette en tibétain. Pour les administratifs, pour les interprètes en récit de vie, pour les personnes tibétaines. Je travaille pour les gada, foyer, spada, il y a partout, je fais un peu de choses. En plus, j'ai créé l'association Culture Tibétaine en Gironde en 2021 parce que je pensais que je peux faire quelque chose pour les autres, quoi, en fait. Après, pour les enfants, au début, j'ai essayé, renseigner un peu le langage tibétain. Et puis pour les femmes, j'ai essayé, faut apprendre les danses tibétaines, quoi.
Et donc ton mari également a ouvert une boutique tibétaine qui s'appelle la Brocante de Gyaltsen, 4 quais de la Monnaie derrière l'arrêt de Saint-Michel. Est-ce que tu peux décrire comment se présente votre boutique et qu'est-ce que vous vendez à vos clients sur la culture tibétaine?
Oui, mon mari il a ouvert une boutique Brocante de Gyaltsen en fin de 2023, mois d'octobre. Dans cette boutique, vous verrez découvrir tous les asiatiques des objets. Le prix, c'est à partir de 1,50€ jusqu'en haut, quoi, en fait. Après, lui, elle aime bien la collection des antiques. Après, les objets, il y en a des objets qui ont valeur, il y en a des objets qui, on va, c'est joli, il faut faire la décoration. Après, dans cette boutique, vous trouverez aussi les bijoux traditionnels tibétains, tous les asiatiques plutôt.
Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Sonam d'avoir accepté notre invitation ici dans l'émission du Guide du Bordeaux Colonial sur la radio La Clé des Ondes. Je voulais à nouveau te remercier de nous avoir offert ton récit qui est vraiment un exemple important de ta capacité, de ta force à être passé du Tibet à ici la France. Est-ce que tu aurais une phrase pour conclure notre échange?
Merci beaucoup à vous, Sandra. Vous avez m'a donné un courage pour parler avec vous. Voilà, ça me touche vraiment. J'ai eu des chances pour raconter vous dans ma vie. Ça aussi, je trouve un karma. Voilà, et puis merci à votre toute l'équipe qui m'a donné une chance pour d'avoir écouté mes récits de vie, quoi.
Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur la clé des ondes.fr.
Merci à nouveau Sonam d'avoir accepté de nous raconter ton récit ici au Guide du Bordeaux Colonial. Tu nous mentionnais aussi que nous pouvons venir assister avec vous le 10 mars à la mairie de Bègle, qui est une journée de commémoration pour les Tibétains, car le 10 mars 1959, c'est le soulèvement tibétain qui est aussi appelé la rébellion tibétaine. C'est une rébellion qui va éclater à Lhasa, contre la Chine et contre la République communiste chinoise. Cette rébellion a lieu 8 ans après l'accord de 1951 qui est sur la colonisation chinoise au Tibet. Le 10 mars, tu nous mentionnais donc que la communauté tibétaine va exposer, afficher des drapeaux tibétains à la mairie de Bègle pour commémorer. Nous vous donnons aussi rendez-vous, bien sûr, à énormément d'événements cette semaine, car comme vous le savez, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, et ces événements commencent dès ce soir. Et donc ce soir, vous avez le collectif Médusine et Bordeaux Détour qui vous invite à une soirée projection du documentaire Hors Radar. Bien entendu, le 8 mars, vous allez être ponctué de différents événements pour la lutte pour le droit des femmes. Vous aurez tout d'abord, à partir de 10h, une projection débat au cinéma Utopia du film We Want Sex Equality. Vous aurez aussi place Sainte-Croix à Bordeaux, la mise en place d'un village féministe. Et bien sûr, à partir de 14h, place de la République, le lancement de la manifestation internationale du droit des femmes qui démarre donc place de la République à Bordeaux. Et enfin, vous aurez donc vendredi 8 mars, dans la soirée, un concert place de la Bourse qui est bien sûr à l'initiative de l'AG féministe. Et nous nous retrouvons donc la semaine prochaine pour une autre émission qui cette fois-ci sera présentée bien sûr par Gérard, une voix que vous connaissez bien pour le guide du Bordeaux colonial. Et donc pour conclure cette émission sur le récit de son âme ici dans le guide du Bordeaux colonial dans le cadre de la journée du 8 mars, je suis très heureuse de laisser le micro à son âme qui a décidé de nous offrir, de nous interpréter une musique traditionnelle tibétaine. Merci beaucoup son âme.
Bonjour. Je vais chanter un tibétain. On parle des amis, des familles, des choses comme ça, quoi. Sonta le moso, la sa nobuli la so ya la nobu mindu ma la so. So ya la josha ishi nobu la ni nobu me nakare e sondale muso. So ya la josha ishi nobu la ni nobu me dumare e sondale muso. Sondale muso. Me chupu me li la so ho ya la nobu mindu ma la so. So ya la yuta churu mo ti la ni nobu me nakan re sondale mo so. So ya la yuta churu mo ti la ni nobu me nakare e sondale mo so. Merci.
Merci beaucoup Sonam, et on se retrouve donc tous ce vendredi 8 mars pour les manifestations pour la lutte internationale des droits des femmes et bien sûr mercredi prochain pour une nouvelle émission du guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la clé des ondes 90.10.
Le guide du Bordeaux colonial, une émission du réseau Sortir du colonialisme 33 sur la clé des ondes 90.10 et sur laclédesondes.fr.